France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Une voleuse, une voyageuse et une virulente ce samedi dans Plan large avec Robert Guédiguian et Isabelle Huppert et aussi Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Ce sont trois femmes et leurs graines de folie respectives, comme dans le film de Robert Altman, qui nous occupent ce samedi. La première est une très aimante grand-mère et dévouée aide à domicile. Elle ne compte pas ses heures, mais n'en oublie pas moins de se rétribuer en toute bonne conscience par de menus larcins au nom d'un droit au superflu qui évoque celui à la paresse de Paul Lafargue. Ancienne ouvrière licenciée par son usine, marseillaise du quartier de l'Estaque, elle sort tout droit d'un film de Robert Guédiguian et pour cause, c'est le nouveau personnage féminin central, complexe et solaire d'une filmographie qui en compte tant. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'elle est une fois encore incarnée par Ariane Ascaride. Robert Guédiguian nous dira dans un instant pourquoi et comment il est retourné la filmer dans son quartier natal, là aussi où est né son cinéma il y a près de 45 ans. C'était dernier été pour cette très musicale pivoleuse. La seconde est une très fantasque et improvisée professeure de français qui déambule dans Séoul comme un poème gravé dans la pierre. Elle est si mystérieuse que ni les spectatrices et spectateurs, ni son interprète, ni même son cinéaste n'en savent beaucoup plus sur elle que ce qu'elle en laisse paraître. Le cinéaste, c'est le très prolifique et toujours plus épuré dans sa manière comme dans sa pratique Hong Sang-soo. L'interprète, c'est Isabelle Huppert. Pour sa troisième collaboration avec le coréen, elle nous dira tout à l'heure son bonheur, toujours renouvelé, à s'abandonner à ses propositions de cinéma. La troisième est une mère célibataire, un rien borderline. Elle a valu à son interprète Joan Woodward un prix d'interprétation au Festival de Cannes. C'était en 1973. Charlotte Garçon nous dira tout, ou presque, dans sa chronique en fin d'émission de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, le grand film de famille, dans tous les sens du terme, réalisé par Paul Newman. Mais pour l'heure, si vous n'avez pas encore déjeuné, eh bien, voici le menu du jour.
Des filets de loup, je vous les prépare pour midi.
Il y en avait ?
Ah oui, ils sont superbes. Vous en voulez combien ?
Ils sont gros.
Comme vendredi. Je vous en avais fait trois. Et vous les avez pas finis.
Mettez les trois quand même. Avec du riz.
Du riz pilaf ?
Bien sûr.
Bon, ben alors je le prépare. Et vous aurez qu'à éteindre le feu. Quand ça sonnera. Je vais mettre le minuteur.
Pas trop épaisse la panure. J'aime bien quand c'est juste trempé dans l'œuf.
Comme votre majesté voudra.
C'est pas si difficile que ça.
Non, si on fait ce que vous voulez.
Bien sûr. Et les bulots, ils sont où ?
Ben, ils sont là.
Et la mayonnaise ?
Ah non, vous l'avez trouvée trop aillée. Alors je vais vous faire une mayonnaise maison.
Pas l'huile d'olive.
Bien, votre majesté.
Ma chère Maria.
Bonjour, Robert Guédiguian.
Bonjour.
Si on voulait schématiser votre filmographie, et Dieu nous en garde, on pourrait dire qu'il y a deux genres de films. Il y a ceux où Ariane Ascaride est en couple avec Gérard Mélan, et puis ceux où c'est avec Jean-Pierre Darroussin. Alors ici, on est dans le premier cas, même si c'est Jean-Pierre Darroussin qu'on vient d'entendre. La distribution des rôles se fait dès l'écriture ou c'est interchangeable ?
Non, ça se fait dès l'écriture. Il y a même un film où elle est avec les deux.
Ah oui.
Hein, c'est Maréchaux et ses deux amours. Voilà. Et donc, non, elle se fait dès l'écriture, en fait. Là, c'est vrai qu'il y a un personnage, on va dire, un des deux personnages est un peu plus physique, un peu plus, on va dire, ouvrier, en fait, que c'est un ancien ouvrier. Ça, c'est un petit peu plus Gérard. L'autre est un peu plus intellectuel. On suppose que c'est un instituteur ou un professeur. En fait, il a beaucoup de livres chez lui, en tout cas. Et ça, c'est quand même mieux pour Darroussin, je trouve.
Je vous voyais sourire en écoutant cet extrait, Robert Guédiguian. Vous avez toujours autant de plaisir à voir vos mots interprétés comme ça et de voir vos comédiens jouer avec ?
Oui, et ce que j'aime là particulièrement, en fait, c'est comme dans des auteurs que j'ai beaucoup aimés, hein, je dirais que j'aime toujours beaucoup, c'est cette espèce de conversation autour du loup pané, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est rien, quoi, que c'est une espèce de chose sans importance, on fait des courses, on fait la cuisine, quoi. Et à travers ça, se joue, évidemment, beaucoup de choses, des rapports amoureux, des rapports affectifs, des rapports de classe, parfois même. Donc c'est ça que c'est particulièrement des dialogues que j'aime beaucoup et ça me fait sourire évidemment.
Alors, on en avait déjà parlé ici en revenant sur toute votre filmographie, Robert Guédiguian, mais évidemment, un des plaisirs qu'on a à voir vos films, c'est regarder vieillir à la fois vos acteurs, mais vos personnages aussi. Alors cette fois, on l'entend pas dans l'extrait, mais Jean-Pierre Darroussin est dans un fauteuil roulant. Donc quand je dis vieillir, c'est vraiment au sens propre du terme. C'est aussi la dernière fois qu'on verra Jacques Boudet à l'écran, oui. Puisqu'il est disparu peu après ce film. Vous jouez beaucoup avec l'épaisseur temporelle de vos films. On pourrait se dire que les personnages qu'on voit, on les a peut-être déjà vus dans des films précédents, et puis c'est leur... vous montrez même des photos du passé.
Oui, mais parce que je crois même que sans que ça soit aussi clair que ça, il y a une histoire de série, quoi. Hein, de série avant l'heure. C'est-à-dire que si on pouvait prendre les deux personnages de dernier été, qui sont Gérard Mélan et Ariane, qui se rencontrent, qui sont amoureux, mais le personnage de Gérard Mélan meurt dans dernier été à la fin du film. Bon. Et, mais sinon, on pourrait penser que ces deux personnages-là de dernier été pourraient être ceux-là, hein. Vieillis, donc 45 ans plus tard, ça pourrait être le Gérard Mélan et l'Ariane Ascaride de ce film-là. Voilà. Et la tentation a été grande parfois d'utiliser ces moments-là. Enfin, je l'ai fait beau. Dans la villa, c'est l'endroit où c'est le plus flagrant. Et
vous prenez là des extraits de vos films précédents.
Où je prends, voilà, un extrait d'un film précédent, où d'un coup c'est saisissant, c'est quasiment diabolique ou magique, comme on veut. Mais de voir les gens au même endroit, 30 ou 40 ans plus tôt. C'est sûr que c'est l'avantage, le fait que ce ne soit pas quand même une série, je trouve, c'est d'être libre, évidemment, plus libre dans chaque fiction, puisque les caractères, leurs caractères ne sont pas définis, enfin pour toute la série oblige évidemment à beaucoup plus de contraintes de ce point de vue sur le suivi des personnages.
Voilà, donc liberté du cinéma, mais alors cette profondeur temporelle, elle remonte même jusqu'à l'occupation allemande à Marseille. Pourquoi est-ce que vous avez inscrit cette réminiscence dans ce film ? C'est discret, hein, mais c'est quand même très important.
Oui, mais parce que, évidemment, c'est une période qui, pour notre génération, et pour cette génération d'ailleurs, qui est montrée dans le film, qui est interprétée par Jacques Boudet et par Jacqueline Vicaire, en fait, c'est vrai que bon, c'est une des choses tout à fait essentielles et marquantes de cette époque-là. Et je crois que ça a tendance à... Enfin, comme toujours, l'histoire efface quand même un petit peu le passé. Et peut-être que dans 50 ans, on parlera plus, ou on parlera très ou mal, ou on parlera plus de ça, de la manière dont on en a parlé. Donc le rappeler encore aujourd'hui, au moment où c'est encore possible... je crois que c'est bien, mais c'est trop... d'autant que ça raconte une histoire d'amour qui n'a pas pu fonctionner à cause de cette guerre mondiale.
Oui, c'est un motif souterrain du film, les histoires d'amour qui fonctionnent ou pas, l'abandon, l'effacement de certains personnages. Alors c'est un film qui est aussi très ancré évidemment dans le présent et par quelque chose de très précis, c'est le coût des choses. On voit dans votre film régulièrement qu'est-ce que ça coûte d'acheter son poisson et des huîtres en plus chez le poissonnier, le coût d'un cours de piano, le montant d'un chèque de caution. Enfin c'est très très précis. J'ai rarement vu autant de prix affiché dans un film, Robert Guédiguian.
C'est vrai, mais c'est une question évidemment centrale. Hein, le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. Donc, de ce point de vue, ça me semble tout à fait juste, mais on n'insiste peut-être pas assez là-dessus. C'est-à-dire sur le fait que chaque fois qu'on parle de minima sociaux, chaque fois qu'on parle du SMIG, enfin, chaque fois qu'on parle des très bas salaires, je veux dire, on ne parle toujours que des choses qui sont, j'allais dire, matériellement nécessaires à la survie. Voilà. C'est-à-dire, on ne parle que du nombre de protéines qu'on doit ingurgiter. Évidemment, il faut un petit toit, quelques mètres carrés. Faut pouvoir se vêtir un peu l'hiver, chaudement, et l'été. Bon, l'été, on s'en fout. Et on parle jamais de vivre, en fait. C'est-à-dire de choses culturelle, artistique, sportive, de la nécessité peut-être de voyager un peu, quoi. C'est-à-dire, si, quand on essaie d'élaborer un minimum sociaux, on compte que la stricte reproduction matérielle des choses, en fait. Et rarement, cette espèce de rarement le plaisir, en fait, voilà. Et je crois, dans ce sens-là, Maria est un peu, avec ses quelques huîtres, et l'écoute qu'elle a de la grande musique. Elle adore la grande musique, en particulier le piano, en particulier Rubinstein, Arthur Rubinstein. Elle a inconsciemment, bien sûr, c'est un anarchisme inconscient un peu, voilà. Elle est libertaire, hein, elle répartit la richesse un peu mieux. Donc, puisque les moyens de la politique pour qu'il y ait un peu plus de justice sociale semblent épuisés, eh bien, elle vole donc un petit peu. Un petit peu, pas trop. Elle vole juste ce qu'il faut pour établir le contrepoids, quoi, dans la balance.
Alors, ce qui fait que votre mise en scène a une position morale assez complexe par rapport à ces vols. C'est-à-dire que vous dites pas c'est bien de voler. Elle-même se dit peut-être que j'aurais pu obtenir les mêmes choses par d'autres moyens, mais vous interrogez une logique, en fait, qui fait qu'on en arrive là.
Oui, oui, oui. Non, mais j'ai toujours considéré, avec un Robin des Bois, le vol, c'est formidable. Donc, le vol a toujours eu à voir avec la révolution, c'est quand même les gens qui, en général, les voleurs sont des gens qui ont peu de moyens. On vole pas. Enfin, évidemment, on peut voler par névrose, par folie, mais en général, c'est pas pour ça qu'on vole. Donc, le vol a à voir, effectivement, avec la révolte et la révolution, me semble-t-il. Du coup, j'ai un point de vue, effectivement, il y a des saccageurs, il y a des voleurs, je me souviens de la chanson de Brassens, la complainte à un cambrioleur, je veux dire, qui avait volé proprement dans sa maison, quoi, il avait pas abîmé sa guitare, etc. Bon. Donc, il y a des voleurs justes, en fait. Et des voleurs injustes.
Alors, l'intérêt du vol aussi au cinéma et dans tout récit, c'est que ça enclenche précisément du récit.
Bonjour.
Madame Jourdan ?
Oui, c'est moi. Bonjour.
Vous êtes Madame Jennifer Jourdan ?
Oui. Qu'est-ce qui se passe, monsieur ?
Vous êtes prof de musique ?
Ah non, non, pas du tout, c'est mon fils qui joue, c'est pas un élève. Enfin, j'aurais bien aimé être professeur de musique, mais non, je suis caissière.
Caissière?
Oui, caissière, pourquoi?
Vous connaissez Monsieur Moreau?
Monsieur... Non, ça me dit rien, pourquoi? Enfin, c'est qui?
C'est mon père.
Et pourquoi je connaîtrais votre père? Enfin, vous êtes un peu rigolo, monsieur, non?
Excusez-moi, c'est votre mère qui est professeur de musique?
Non plus. Excusez-moi, monsieur, je comprends pas trop ce que vous voulez, là.
Ce que je veux, c'est savoir pourquoi mon père loue ce piano pour vous.
Mais c'est pas votre père qui loue ce piano?
Ah ouais? Et le loyer, c'est lui qui paye aussi? Et quoi d'autre?
Bon, écoutez, je comprends pas du tout ce que vous voulez, là.
Qu'est-ce que vous lui faites à mon père pour prendre son argent?
Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît.
Ouais, bah, vous pouvez me faire confiance, je vais pas vous laisser tranquille, hein.
Ça va pas se passer comme vous croyez. On va se revoir, Madame Jourdan. On va se revoir très vite, et ce sera au tribunal.
Alors, on a entendu tout à l'heure la première génération des acteurs Guédiguian. Voici la seconde, avec même une petite nouvelle. La petite nouvelle, c'est Marie-Lou Ossillou, excellente entrée dans votre cinéma. Et on a un peu le sentiment, Robert Guédiguian, qu'avec cette jeune génération, c'est Grégoire Le Prince Ringuet, hein, qu'on a entendu avec elle, qu'on a pour le coup déjà vu chez vous. Vous avez peut-être voulu revisiter un de vos films précédents, Gloria Mundi, 5 ans après, en donnant peut-être cette fois une chance au personnage de jeune qui était totalement effrayant et monstrueux dans le film de 2019. Ici, c'est un peu la possibilité, in fine, de la bonté et de la gratuité que vous voulez filmer. Et en cela, il me semble que c'est un acte totalement politique que de montrer la bonté et la gratuité.
Oui, je crois que dans les moments comme ça, les moments que nous traversons, donc on parlait de climat tout à l'heure, du climat politique, climat qui est tout à fait, enfin, qui est tout à fait, je ne sais plus quel mot utiliser, désespérant, en fait, bon. Il semble vraiment que plus rien ne soit possible. Donc, dans ce cas, dans ce moment-là, je crois qu'il faut d'autant plus essayer d'aller traquer, en fait, ce qu'il y a peut-être de bon et de beau, d'ailleurs. Les deux mots, d'ailleurs, je me souviens que j'ai tourné en Afrique, en fait, que j'ai tourné à Bamako, dans beaucoup de langues africaines, beauté et bonté se disent de la même manière. Donc, je crois que c'est tout à fait, effectivement, œuvre de utile aujourd'hui que d'essayer d'encourager les gens. En tout cas, c'est mon désir. Et dans Gloria Mundi, effectivement, j'étais décidé à ce moment-là, à critiquer fortement un certain nombre de comportements, en particulier les comportements de compétition, de concurrence, enfin, de volonté de pouvoir, de volonté de richesse, etc. Là, j'ai tendance à essayer de montrer ce qui peut fonctionner, j'allais dire, hors des institutions, hors des pouvoirs publics, hors de la politique, ce qui peut fonctionner entre les gens, et qui est forcément de l'ordre affectif. Donc, quand je dis affectif, évidemment, éventuellement amoureux, amical, amoureux, affectif, de proximité, voilà. Je crois que notre salut aujourd'hui est dans la proximité. Tant comment faire pour s'en sortir entre nous, au niveau du sol, comme disait Brodel, hein, c'est une expression que j'utilise souvent, Brodel qui était un spécialiste de la Méditerranée, comme vous savez, bon, et qui parlait du niveau du sol pour parler des relations les plus au rez-de-chaussée, les plus humbles, en fait, et les plus hors l'histoire, on pourrait presque dire, voilà. Mais qui tiennent le tissu social debout, qui font que les hommes restent debout. Elle le dit souvent, d'ailleurs, Maria dit souvent, je vais me débrouiller. Et bon, il y a toute une idée derrière ce je vais me débrouiller qui me semble extrêmement productrice de sens. Je crois qu'il faut penser que nous devons nous débrouiller indépendamment, effectivement, de pas mal de choses qui se passent dans le monde, indépendamment du rapport normal que nous avons à la politique, c'est-à-dire d'aller régulièrement voter. Je dis pas qu'il ne faut pas aller voter pour autant, hein, voilà.
C'est ce qui est très beau dans votre film, est très inattendu parce qu'on a l'impression à un moment qu'on est dans terrain connu, sur les rails un peu de la fable sociale et politique. Et puis tout d'un coup, il se passe autre chose précisément qui tient au désir. C'est-à-dire que les personnages sont submergés par quelque chose qui dépasse tout calcul et qui les emporte. Et je crois que c'est une dimension importante de votre cinéma qu'on n'évoque pas si souvent, c'est la force du désir. Robert Guédiguian.
Oui, parce que j'avais déjà travaillé ce désir-là, en fait, toute cette puissance du désir, ce hasard aussi du désir. Le désir peut surgir lorsqu'on ne s'y attend pas. Bon, on n'est pas. Parfois on le provoque, mais parfois il surgit. Et c'est. En fait, j'avais déjà travaillé ça dans plusieurs films, mais c'est vrai que, évidemment, la tendance naturelle est quand même de me mettre dans une case comme ça, sociale et politique et de gauche d'ailleurs, et donc très ancrée, et de pas voir, alors justement d'évoquer tout à l'heure Marie-Jo et ses deux amours, qui est un film qui effectivement ne porte que sur ce question là quasiment, où la question sociale est au second plan. Donc je crois que je pourrais résumer ça à une phrase que dit un des auteurs dans l'attaque, en fait, si vous vous souvenez. Il dit, au fond, il n'y a que deux choses importantes, c'est la lutte des classes et la sexualité.
Voilà, alors là, les deux sont réunis tout à fait dans ce film. Et alors, précisément, il y a un moment où on est dans un au-delà du langage. Enfin, on a entendu votre talent avec votre co-scénariste Jean-Louis Ménézé à écrire des dialogues. Mais dans ce film, sans doute, plus que jamais, vous prenez le temps de regarder vos personnages qui se taisent, qui réagissent, qui ont un regard, qui ont des gestes. Et voilà, je sais pas si ça s'est conçu dès l'écriture ou si c'est vraiment sur le tournage, d'un coup, vous avez dit, voilà, j'ai envie de regarder mes personnages.
Non, c'était vrai dès le départ, en fait. Je sais pas. Par contre, je sais pas pourquoi, mais ça s'est présenté comme ça, on va dire. C'est-à-dire que je me doutais bien. Le scénario faisait 66 pages. C'est le scénario le plus court que j'ai jamais écrit. Ça surprenait d'ailleurs certains interlocuteurs qui me disaient, enfin, t'es sûr que ça va durer une heure et demie? Je lui dis, mais oui, ça va durer une heure et demie. Donc je sentais bien qu'il y aurait du temps. Or, la lecture normale, quand on lit les dialogues, comme minute, un scénario, etc. Bon. Et c'est, je sais pas, est-ce que c'est lié au fait que je savais qu'il y aurait le piano qui serait central, qu'il y aurait donc beaucoup de musique dans le film, mais je sais que j'ai parlé très très vite avec le musicien, avec mon chef pointeur, qui est le même depuis des années, en lui disant, j'ai l'impression que le film va être un petit peu comme parfois sont les films muets, en fait. Donc j'avais le pressentiment de ça, oui, sur ce film-là. Mais je ne l'ai pas, j'allais dire, c'est venu dès le début de l'écriture, enfin, au bout de quelques semaines, quand le scénario s'est constitué, j'ai eu le pressentiment de ça, oui.
Ben ça vient sans doute, effectivement, vous venez de le dire, parce qu'il y a beaucoup de musique dans ce film, il y a des morceaux, notamment de piano, qu'on entend en entier. Pourquoi est-ce que vous avez voulu travailler cette matière-là? On sait, si on connaît un peu votre cinéma, que vous avez ce goût. Il y a un Twist à Bamako récemment. On pense à l'ouverture de Gloria Mundi avec la pavane pour une enfant défunte sur un accouchement, qui était un très très beau moment de cinéma. Vous allez comme ça vers la comédie musicale ou le film opéra ou...
Non, j'allais dire, je ferai probablement jamais de comédie musicale parce que je trouve que c'est trop de travail, en fait. Voilà. C'est que c'est vraiment un boulot considérable, une comédie musicale. Et donc je préfère tourner des films plus rapidement et en faire plus. Au fond, je suis un peu impatient, on va dire que, ou du moins, c'est un métabolisme qui n'engage évidemment que moi. Mais c'est vrai que mettre 2-3 ans à faire un film me semble quelque chose d'absolument inconcevable. Je veux dire, voilà. Donc c'est vrai que je peux pas me lancer des aventures comme ça. Néanmoins, c'est vrai que la musique me plaît depuis, enfin, j'écoute la musique en permanence. pas que de la musique classique, de la variété aussi. Et j'en écoute, mais sans arrêt. Je ne vis pas une seconde de sa musique. Enfin, j'écris de la musique, je mets la musique en permanence. Et là, je tenais à ce que, effectivement, dans cette... Là, le piano, bon, pourquoi ? Parce que le piano, c'est quand même l'objet, c'est l'instrument de musique classique par excellence, c'est monumental, c'est un instrument lourd, qu'il faut déplacer à plusieurs, qui même parfois dans un petit appartement ne peut pas rentrer. Donc effectivement, il y a un désir, effectivement, chez tous ces pauvres gens, comme dit Victor Hugo, d'avoir un piano, ça me semblait concrétiser complètement cette opposition-là entre une éventuelle richesse et culturelle et une pauvreté de moyens, en fait.
Le film se clôt d'ailleurs sur une partition de piano, et si on regarde bien, oui, il y a une intention d'interprétation qui dit « avec élégance et simplicité ». Ça donne une direction de mise en scène.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était des mots qu'on prononçait. On voulait que le film soit élégant et très simple.
Pardonnerai, j'espère, Robert Guédiguian, que ce ne soit pas Arthur Rubinstein, mais Vladimir Horowitz, c'est pas mal non plus, qui interprète dans sa transcription par Franz Liszt le chant du cygne de Franz Schubert. On l'entend dans votre film, autre volatile, après le cygne, la pivoleuse, qui sortira mercredi prochain. Vous écoutez France Culture, et vous restez avec nous, Robert Guédiguian. On vous invite à écouter cet autre drôle d'oiseau qui est Isabelle Huppert. On sait le plaisir qu'a la très prolifique actrice à se frotter à d'autres territoires et aventures cinématographique, notamment à l'étranger, pour se faire comme tirer le portrait par de grands artistes. Et parmi ceux-ci, il en est un qui sait particulièrement bien tirer parti de ce qu'elle peut avoir de fantasque aérien et mystérieux. C'est le non moins prolifique cinéaste coréen Hong Sang-soo. Après In Another Country en 2012 et La caméra de Claire en 2017, il a fait à nouveau appel à elle pour incarner l'éponyme voyageuse de son nouveau film, même s'il a déjà dû en tourner 3 ou 4 depuis, dont un qui sera en compétition, comme toujours, à la prochaine Berlinale. C'est à la dernière Berlinale, il en est reparti avec le Grand Prix du jury, qu'on a pu découvrir cette mystérieuse Iris, débarquée on ne sait pourquoi à Séoul, grande amatrice de la boisson locale à base de riz fermenté, vêtue d'une robe à fleurs, d'un cardigan vert, de sandales de corde à semelles compensées et d'un chapeau de paille à large bord, et qui gagne sa vie en enseignant le français avec une méthode dont on ne sait trop si elle tient de l'arnaque pure et simple ou de la psychanalyse sauvage. Elle interroge ses élèves sur leurs émotions et souvent leur tristesse, les traduit en brèves sentences qu'elle inscrit sur une petite carte qu'elle leur donne ensuite à apprendre. Exemple sonore de ce que ça donne avant qu'on entende Isabelle Huppert raconter ses aventures cinématographiques au pays du matin calme avec le peu bavard Hong Sang-soo.
Je suis... tellement... ennuyée... par moi-même, je suis tellement lasse de moi, toujours à vouloir devenir quelqu'un d'autre, quelle est cette personne en moi qui me rend si fatiguée.
Do you understand my handwriting?
Oh, yes. Juicy tellement ennuyée.
Ennuyée. Pas moi-même.
Moi-même. Je suis tellement lasse.
Lasse de moi.
De moi. Toujours.
Oui.
Toujours à vouloir.
Très bien.
Devenir. Devenir. Devenir quelqu'un d'autre. D'autre. Quel
est.
Quelle est
cette personne
en moi
qui me rend.
Qui me rend.
Si fatigué.
Si fatigué. Très fatigué.
Bravo!
Oh. Je suis tellement.
Bonjour Isabelle Huppert.
Bonjour.
C'est votre troisième film avec Aung San Suu. Ça fait 10 ans que vous faites des films avec lui. Quel plaisir vous avez à chaque fois à retourner dans son univers presque, je dirais.
Toujours le même. Je suis contente de retrouver. La même singularité, il fait des films comme personne, Aung San Suu. De film en film, je crois qu'il devient de plus en plus solitaire, radical. Mais les films sont tout autant plaisants. Je ne pense pas que les films, eux, soient exclus le spectateur. Mais il a une manière de faire qui ressemble à personne, qui ne ressemble qu'à lui.
Très concrètement, comment ça se passe quand Aung San Suu vous propose un film, qu'est-ce qu'il vous dit, par exemple, pour celui-là? Et est-ce que ça a été différent pour les deux films précédents?
Eh bien, il me les propose toujours, ça vient un peu de nulle part. Ce n'est pas le genre qui prend son téléphone et qui dit « tiens, j'ai envie de faire un film ». Non, il y a quelque chose dans nos rencontres qui précède la proposition. Et en fait, je ne sais jamais d'où ça vient. D'ailleurs, dès que je le rencontre, j'ai déjà l'impression d'être dans un film d'Aung San Suu. Il y a quelque chose dans le mode opératoire, dans la manière dont on parle. Et puis, d'un coup, out of nowhere, il dit « Tiens, et si on refaisait un film ensemble ?» Et ça s'est un peu passé sur les 3 films de la même manière. Alors, sur le premier, ce n'était pas « si on refaisait un film ensemble », c'est « et si on faisait un film ensemble ?» Non, on se rencontre et puis, d'un coup, surgit l'idée de faire un film. Alors, peut-être que lui, il y pense avant, mais je ne pense pas. Je suis sûre que non. Alors, ça a été la même chose pour celui-là. Nous nous sommes retrouvés, pas complètement par hasard, il était à Paris pour la rétrospective de ses films à la Cinémathèque. Mais la rencontre a failli pas se faire. Il était un peu souffrant. Moi, j'étais en tournage. Si elle s'était pas faite ce soir-là, elle ne se serait pas faite le lendemain parce que je devais repartir. Enfin, ça a été quand même sous le signe du hasard. Et puis, on s'est rencontrés. Et puis, au bout d'une heure, il m'a dit « Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ensemble. » Il me dit « Si on refaisait un film ensemble. » Et puis, voilà, en très peu de temps, tout était décidé. On a repris un rendez-vous téléphonique quelques semaines plus tard, où là, il allait me confirmer que tout marcherait du point de vue de l'emploi du temps. Et puis, ça s'est fait quelques semaines plus tard.
Mais est-ce qu'il vous dit quelque chose, par exemple, du personnage que vous allez interpréter, de cette Iris? Est-ce que c'est juste une situation? Il va vous dire, vous êtes là et on va bien voir ce qui se passe?
Non, il dit rien, absolument rien. Non, non. Surtout pas au moment où il décide de faire le film. Alors là, je sais absolument pas. Là, c'était juste sur l'idée qu'on n'en avait pas fait depuis un moment et que ça serait bien de recommencer. Quoi? C'était absolument pas à l'ordre du jour, en tous les cas, pas de cette soirée-là. Donc après, peut-être que quelques semaines plus tard, il a dû me dire que j'allais jouer un professeur. Après, je me doutais bien que je serais pas un professeur dans une salle de classe derrière un pupitre. Donc. J'ai laissé vraiment les choses se faire. Non, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'histoire. Et à l'arrivée, il y a un film. Et un film qui tourne celui-là en 13 jours. Le premier, c'était en 9 jours. La caméra de Claire, c'était en 6 jours. Et donc, je dis souvent, j'ai jamais vu quelqu'un prendre autant de temps en aussi peu de temps. Parce qu'à l'intérieur de ces journées, il n'y a aucune précipitation. On va très lentement, il fait beaucoup de prises, c'est très travaillé, c'est extrêmement étrange. Cette dichotomie du temps entre le peu de jours qu'on passe à faire le film et les heures qu'on y passe. Alors évidemment, il n'y a pas de... on ne travaille pas 6 heures par jour. Hein. Il se sent tout à fait libre d'utiliser ce temps comme il veut. Donc ça fait des journées souvent longues, souvent courtes. D'ailleurs, il n'y a pas de règles. Mais ça donne un sentiment assez incroyable. Et surtout, ça fait revoir un tout petit peu toutes les règles, toutes les habitudes selon lesquelles on fait des films. C'est très étrange. C'est pour ça que j'aime aussi régulièrement refaire des films avec lui, parce que ça renvoie, c'est une sorte de grammaire qu'on revisite, qu'on croyait vraiment établie jusqu'à la fin des temps. Et alors lui, il fait valser tout ça et redéfinit à sa manière pour arriver à l'arrivée à avoir un film quand même. Voilà, il y a quand même, enfin, je l'espère en tous les cas, des spectateurs qui vont rentrer dans une salle et qui vont voir un film. Mais pour y arriver, c'est pas les mêmes chemins qu'on prend d'habitude.
À un moment, votre personnage dit au jeune homme avec qui elle cohabite, il joue du piano, et elle lui dit « Réagis à chaque note que tu fais de tout ton être ». Est-ce que c'est pas ça aussi la méthode Aung San Suu ?
Oui, c'est ce qu'elle enseigne, hein, cette Iris, qui est, je dis, quand j'ai vu le film, qu'elle était un peu à mi-chemin entre la fée et la sorcière, car la fée, parce que elle s'intéresse profondément à ce que sont les gens et à ce qu'ils éprouvent, à leurs désirs, à leurs secrets, à leurs regrets aussi peut-être, et un peu une sorcière parce que elle les force à se confronter à eux-mêmes, à se révéler, mais surtout à se confronter à eux-mêmes. Et en disant ça, on n'éprouve jamais autant qu'avec lui ce que, au fond, ce qui est aussi la définition du cinéma, c'est la puissance de... C'est l'ici et maintenant, le cinéma. C'est au moment où on le fait qu'il se passe tout ce qui doit se passer. C'est pas parce qu'on y aura pensé, si, on peut y penser avant, mais voilà, il n'y a rien qui s'anticipe avant. Et quand elle dit ça, oui, au fond, elle force aussi son interlocuteur ou son interlocutrice à vraiment comprendre l'importance de ce qu'elle fait, ce que ça veut dire, comment elle le fait, pourquoi elle le fait. Elle force les gens à penser, tout simplement, et à réfléchir. Et alors, évidemment, elle s'attaque, enfin, disons, elle choisit des domaines. Quand elle demande à la jeune pianiste qu'est-ce que tu as éprouvé quand tu as joué, c'est toute l'histoire d'une vie aussi. Qu'est-ce qu'on éprouve à faire ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait aussi bien qu'on voudrait, est-ce qu'on en tire autant de plaisir, autant de satisfaction qu'on le souhaiterait, voilà, c'est... Il nous ramène quand même à une condition un peu essentielle de nos vies, en faisant ça, mais d'une manière tellement légère et évidemment poétique surtout.
Mais j'ai le sentiment aussi qu'il vous pousse à être une pure présence dans ces plans-là, et notamment dans ces plans où tout d'un coup un personnage sort et vous êtes seul dans le plan. Il faut bien trouver de quoi s'occuper, et on vous voit inventer des micro-gestes, des mimiques, comme s'il fallait habiter, voilà, ce plan, ce temps mort dont la plupart des cinéastes méfient.
Oui, et peut-être aussi des acteurs. Il faut au contraire l'utiliser, puis tout d'un coup laisser libre cours à son imagination. Alors peut-être vous faites allusion à ce moment où effectivement la première jeune fille à qui je parle s'éloigne, et puis il y a ce petit bout de scotch vert, et dont le vert vient en écho au vert de ce petit pull vert que j'ai acheté dans une rue de Paris juste avant de prendre l'avion, et qui fait un peu merveille dans le film, parce que qui est constamment en écho à la verdure du paysage. Enfin, il y a plein de moments où le vert du décor résonne avec ce pull vert, y compris à ce moment-là, avec c'est un petit scotch vert que j'enroule autour d'un stylo, et ça raconte plein de choses, ça raconte rien, mais justement parce que ça raconte rien, ça raconte tout, quoi. Ça remplit un moment, on réfléchit avec elle à ce moment-là. Donc on réfléchit sur ce qui vient de se dire, et on réfléchit sur ce que vient d'entendre la jeune fille, et c'est comme un blanc, comme un espace qu'on remplit et qui devient extrêmement riche, au contraire, et plein, au lieu d'être vide. Il ne faut pas avoir peur du vide, ni du silence.
Revenons justement à cette couleur verte, parce que les films d'Aung San Suu, il y a les films en noir et blanc, et puis il y a les films en couleur. Et on a de plus en plus l'impression que Aung San Suu réagit, enfin, agit plutôt en peintre. Et là, il y a ce petit gilet vert, il y a cette robe à fleurs, il y a ce chapeau. Est-ce que vous-même, vous avez eu le sentiment, en les choisissant, parce que je crois que c'est vous qui les avez choisis, d'apporter votre propre touche à la palette de Aung San Suu?
Ah oui, oui, constamment, bien sûr, surtout sur la préparation des costumes. Après, c'est vrai que c'est lui qui réagit aux couleurs. La robe, je l'ai achetée, mais je lui ai envoyé la photo quand j'étais dans cette boutique, quelques heures avant de prendre l'avion. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose, dès le départ, où on a déjà l'impression d'être dans un film de Aung San Suu. La manière que j'ai eue instinctivement, sans rien savoir, de rassembler comme ça, de manière un peu éparse, les différents éléments du costume, le sac après qui est bleu, les sandales, les chaussures, et puis cette petite robe vers laquelle je me suis sentie appelée. Et je lui ai envoyé la photo et il m'a tout de suite répondu, parce qu'il était là, il m'a dit oui, oui, c'est ça. Et puis le pull vert. Et bien sûr, oui, ça, j'ai l'impression comme ça de participer complètement. Mais c'est vrai qu'il agit comme un peintre. Hein. Il choisit les couleurs. C'était la même chose pour In Another Country. J'étais venue alors là avec beaucoup de vêtements. Je savais qu'il allait les choisir parmi ceux que je lui apportais, mais il a eu une manière, et pareil sur la caméra de Claire, une manière très sûre comme ça, tout d'un coup, de choisir un jaune, un vert, un bleu, il choisit comme ça. Et c'est vrai que, par exemple, l'utilisation de la couleur dans un de ses films précédents qui était en noir et blanc, qui était La Romancière et Le Hasard, il y a un moment donné, il y a ce plan en couleur qui surgit, et moi, ça m'a fait fondre en larmes à ce moment-là. J'ai trouvé ce moment extraordinaire. Ça procure une émotion, c'est très troublant parce que c'est juste un plan, je ne sais plus si c'est des fleurs ou des... Tout d'un coup, il y a la couleur qui apparaît. C'est extraordinaire comment il amène la couleur à ce moment-là dans ce noir et blanc qui raconte quelque chose sur l'éveil, sur l'amour, sur énormément de choses.
Les fleurs s'épanouissent, les oiseaux volent, Lady passe by. Une fille passe. Une fille passe. Le vent souffle. Mon chemin est toujours un nouveau chemin. Aujourd'hui et demain, traverser le ruisseau vers la forêt, franchir la colline, vers le village.
Thank you.
Elle est très mystérieuse, cette Iris. On ne sait rien de son passé. On ne sait pas trop pourquoi elle est là et ce qu'elle y fait. Est-ce que vous imaginez hors champ une histoire à ce personnage ou vous a abandonné complètement à, là encore, la pure présence? Et finalement, c'est à la projection du film, presque, que vous découvrez le personnage que vous avez joué.
Ah non, non, moi j'imagine rien du tout, mais moi j'imagine jamais rien du tout sur les autres personnages que je joue. Hein. Je ne suis pas du tout du genre à leur imaginer une vie. Non, pas du tout, du tout. Non, je crois que c'est vraiment la négation même pour moi de faire ça sur ce que justement fabrique, impose et procure la puissance du cinéma. C'est, encore une fois, c'est le moment présent. Donc on peut élucubrer pendant des heures sur d'où elle vient, ce qu'elle fait. On s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est ce que chacun, d'ailleurs, projette sur cette pure présence, sur cet inconnu, sur ce qu'on ne sait pas d'elle. C'est la meilleure manière que tout le monde en pense quelque chose, puisque de toute façon, on n'en sait rien. Donc, si je venais je ferais d'elle un personnage, ce qui est évidemment le contraire de ce que j'ai envie de faire. Ça voudrait dire que je lui invente des choses qui seraient complètement encombrantes, au contraire.
On a plus le sentiment d'ailleurs que vous êtes une interprète au sens musical. Il y a une vraie musicalité des voix. J'imagine que vous communiquez en anglais avec Aung San Suu, mais il y a du français, il y a du coréen. Donc le coréen que vous ne comprenez pas, le français que sans doute il ne comprend pas non plus. Est-ce que dans ces différentes prises, il vous demande des variations, des modulations, ou est-ce que il vous laisse là encore libre cours dans l'interprétation de sa partition?
Ah non, non, il donne aucune indication de ce genre. Non, non, si je puis dire, il ne se permettrait pas. Non, enfin, je pense que ça ne lui viendrait même pas à l'idée. En fait, non, il ne dit rien. On fait beaucoup de prises, c'est tout. Mais tout est dans son écriture, c'est très bien écrit aussi. Alors, l'écriture, sur In Another Country, par exemple, il donnait le texte, il me le donnait la veille quand même. J'avais un petit peu de temps pour enfin la veille, le soir parfois très tard, mais enfin j'avais un petit peu de temps. Alors là, plus du tout, il le donnait tous les matins. Et dur à apprendre parce qu'il est, et c'est tellement bien écrit. D'ailleurs, ça lui est égal aussi que parfois le texte nous échappe parce qu'il faut l'apprendre en très 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 peu de temps. Mais on a vraiment envie de le retenir le plus précisément possible parce que le texte est tellement bien écrit et tout ce qui surgit même de drôle, ça vient du texte, ça vient de son écriture, ça vient des situations, ça vient de l'étrangeté aussi de ce qu'il propose. Moi, tout d'un coup, quand il me fait cligner de l'œil au personnage là, dans une des scènes, c'est écrit comme ça, moi je... Il dit, elle cligne de l'œil, je lui cligne de l'œil. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... Bon, faut pas chercher à comprendre, mais c'est vrai que ça fabrique quelque chose de très drôle, tout d'un coup, comme si elle franchissait une sorte de seuil un peu étrange, quand même. Elle crée une sorte d'intimité. Bon, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Enfin, bon, voilà, tout est vraiment dans son écriture. Mais il ne donne absolument pas de... Non, surtout pas sur des intonations. Qu'est-ce qu'il dit, en fait? Il dit rien. Parfois, du rythme, je crois même pas. Non, il laisse les choses se faire. Comme il fait pas mal de prises, que c'est évidemment très construit du point de vue de la mise en scène. Il ne fait pas des chants contre chants à longueur de journée. Hein. Il ne reprend pas plus proche. Enfin, il y a tout. Voilà, il y a quand même un langage qui est à la fois très simple et extrêmement maîtrisé. Ça laisse justement ce cadre tellement maîtrisé, toute liberté, justement. Pour se balader à l'intérieur de ce cadre comme on veut, faire surgir de la drôlerie, de l'émotion, peut-être pas aller jusque-là quand même, enfin l'émotion qui viendrait justement d'une sorte de, tout d'un coup, une réflexion, un silence. Il regarde, je crois qu'il donne à voir de la pensée aussi. Ça, c'est Godard aussi qui parlait de ça. De comment montrer que les gens pensent quelque chose. Quoi, on ne sait pas, mais ils pensent en tous les cas.
Sans doute Kong Sang-soo a réussi le rêve de Godard d'une certaine façon, en enlevant toute la machinerie, dans tout ça, pour toucher vraiment à l'essence pure du cinéma.
Oui, oui, c'est vrai que Godard, il voulait aller vers ça. Il y allait d'ailleurs, plus que bien des metteurs en scène avec qui j'ai pu tourner. On tournait quand même dans cette économie-là de moyens, de personnes. Enfin, c'était... Et la manière d'ailleurs dont les costumes se sont préparés avec Kong Sang-soo, ça m'a beaucoup rappelé le seul avec qui... Ça s'est passé comme ça, c'était avec Godard. Je me souviens, pour Sauf qui peut, il m'a emmené dans une grande surface et on a choisi un imperméable, on s'est baladé parmi des vêtements et puis au hasard, rien n'était au hasard certainement avec lui, mais c'est comme ça qu'on a fait les costumes. Ça m'a beaucoup rappelé la manière dont ça se passait avec Hong Sang-soo.
Et puis, les films de Hong Sang-soo, on sait qu'on y boit beaucoup, mais on y boit différemment au fur et à mesure, sans doute parce que Hong Sang-soo vieillit un peu. Ici, c'est plus le soju, c'est le maggeoli. Quel goût ça a ? Et qu'est-ce que ça a provoqué aussi chez vous ? Je ne sais pas s'il y a eu autant de consommation pendant le tournage que ce qu'on voit à l'écran.
C'est délicieux, le maggeoli. Moi, je n'aime pas du tout les alcools forts comme ça. Et c'est très, très, très bon. C'est très sucré. On a pas mal l'impression de boire du lait d'amande. Alors que c'est très alcoolisé, alors évidemment c'est très très enivrant. Ce qui est drôle, c'est qu'il me fait dire, moi je bois 2 bouteilles de maggeoli par jour, ce qui est quand même là beaucoup beaucoup. Mais le peu qu'on en a bu, oui, ça contribuait comme ça à une légère ivresse pendant la scène. C'est vraiment très très bon, j'adore ça.
Merci beaucoup Isabelle Huppert.
Voilà, je vous en prie.
Le Nouvel est toujours aussi beau, film de Hong Sang-soo avec Isabelle Huppert, est sorti ce mercredi. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, il est l'heure d'ouvrir le journal du cinéma avec quelques autres films. Sur vos écrans cette semaine, pas la meilleure de l'année, il faut bien le dire.
The story starts.
Remember, I believe in you.
Do I look like a pop star to you?
Shut up, you tits!
Ah, fuck off, Glenn!
Mother!
Oh, hello!
Oh, bonjour, vous. Qu'est-ce que vous faites là?
Elle est consciencieusement passée à côté de son existence.
Vous n'avez aucun nouveau message.
C'est trop tôt, en vrai. C'est vraiment trop tôt. C'est dur de faire des choix, cet âge-là.
J'ai un peu de regret de grandir, mais en vrai, je me demande ce que ça fait d'être grand.
C'est faire les bons choix.
découvrir que la vie n'est pas si simple que ça.
Mes potes à moi, ils sont comme nous. Ils sont carrés, ils sont droits, ils sont propres sur eux.
Ah oui, tu trouves qu'ils sont propres?
Ouais.
Moi, je trouve qu'ils sont sales. Ce qu'ils écrivent, c'est sale. Ils sont vulgaires en plus.
Ils sont sales, tes copains.
Écoute, je dis ce que je veux. Et je fais ce que je veux.
Non, je dis pas ce que je veux.
Non,
je suis pas en prison, là.
Soumets-toi, tu dis pas ce que tu veux.
There are 7 deadly sins. Gluttony, greed, pride, sloth, wrath, lust, and envy.
Honestly, have you ever seen anything like this? No.
Dans vos salles cette semaine, une tentative après le Pharrell Williams en Lego de Piece by Piece de renouveler le biopic musical en incarnant son chanteur de sujet par un chimpanzé. Tout en reprenant malheureusement les schémas obligés de ce genre éculé, c'est l'improbable Better Man de Michael Gracie qu'on réservera et encore aux fans de Robbie Williams. Une tentative encore française, celle-là, de s'aventurer sur les traits britanniques terres de la comédie romantique. C'est Jane Austen a gâché ma vie de Laura Piani. Gâché pour le coup par le ton trop velléitairement littéraire de ses dialogues, avec tout de même l'apparition finale et presque épiphanique d'un personnage qu'aime beaucoup Charlotte Garçon et nous-mêmes. C'est déjà ça. Une nouvelle immersion documentaire dans un collège de quartier populaire, c'est tourné dans le quartier parisien du même nom, Château Rouge d'Hélène Milano, qu'on sent un rien hésitante dans son point de vue, d'un côté ou de l'autre du Manche, à l'heure des premiers choix d'orientation. La transposition sur la Côte d'Azur du film de mafia scorsésien et communautaire à la James Gray, c'est Brûle le sang, premier film un peu gros bras, d'Akaki Popkadze, qui mérite cependant d'aller y voir. Il y a de la sensibilité derrière la pure exhibition de muscles et de sang répandus. Un ancien syndicaliste du rail désarmé devant la dérive identitariste d'un de ses fils, c'était un rôle en or pour Vincent Lindon et il en a été récompensé à la dernière Mostra de Venise. C'est l'un peu simpliste, tout de même, jouer avec le feu des sœurs Delphine et Muriel Coulin, et puis enfin, 30 ans après son succès Surprise, qui avait lancé en 1995 la carrière de David Fincher, Seven ressort en salle et en IMAX, dans une copie restaurée qui rend justice aux images toujours aussi malaisantes de son chef opérateur, le français Darius Kondji. Anniversaire encore Ciné Junior, le plus grand festival de cinéma jeune public de France, à destination des enfants, adolescents et familles du Val-de-Marne et d'Île-de-France, fête sa 35e édition dans plus de 60 cinémas et lieux culturels sur le thème de « Dans tous mes états ». C'est du 29 janvier au 11 février. Un département à côté, c'est au cinéma L'Écran de Saint-Denis que se tient du 29 janvier toujours jusqu'au 9 février. Regard Satellite, le festival du cinéma international indépendant, avec notamment un hommage à la regrettée cinéaste Sarah Maldoror et pour la première fois une compétition de premier et second long métrage. Si vous poussez un peu plus loin au nord-ouest, vous pourrez découvrir les délices des trompe-l'œil cinématographiques et en particulier l'art du matte painting. C'est jusqu'au 25 mai au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains et il paraît que c'est aussi un excellent ciné-club. Et puis enfin au centre de Paris, dans le Marais, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, une belle rétrospective est consacrée à la documentariste Yolande Zobermann. Ça s'appelle Intérieur Nuit Cinéma et c'est du 29 janvier au 2 février. Et à présent, décrochons le combiné téléphonique histoire d'écouter un peu ce qui s'y dit.
Hello, Mrs. Hanstorfer. This is Mr. Goodman at the school. I was wondering if Matilda...
She's on her way, Mr. Goodman. She's on her way.
Oh, yes. Mrs. Hanstorfer, I really didn't...
While I have you on the phone, Mr. Goodman, I would like to talk to you about the seeds you gave Matilda.
Mm-hmm, yes.
Now, she tells me they've been dunked in radioactivity or something. And I hear such terrible things about radioactivity that I automatically associate radioactivity with sterility. Are you married, Mr. Goodman?
No, I'm not.
Oh, that's too bad. I don't know what the women of today are thinking about letting a handsome young man like you get away. At any rate, it horrifies me to have these things in my living room. Couldn't she just grow plain marigolds like everybody else?
Well, I really wouldn't worry about the sterility factor, and it's a very interesting project.
Oh, God, I don't doubt it's an interesting project. John!
Do you know what a mutation is, Mrs. Hanstorfer?
No, I must admit, at this exact moment, I do not know what a mutation is, and I don't want you to think...
Well, when a form or quality of something is changed, that...
I don't want
want you to think I'm not interested, Mr. Goodman, but would you spare me the definitions over the phone, please? I got enough definitions around here from Matilda. Hello?
Cette mère de famille célibataire et borderline, un rien courroucé au téléphone avec le professeur de physique de sa fille, inquiète qu'elle est que les fleurs exposées à la radioactivité que la petite fait pousser au domicile familial ne provoquent sa stérilité. Elle s'appelle Beatrice Hunsdorfer. Si Cassavetes avait réalisé de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, elle aurait pu être jouée par Gina Rowlands, mais elle est interprétée ici par la grande Joan Woodward. Elle aura du mal à s'en remettre de ce rôle, mais elle repartira tout de même du Festival de Cannes 1973 avec un prix d'interprétation féminine. Celui qui la met en scène avec les images d'Adam Hollander, le directeur de la photographie de Macadam Cowboy et Panic at Needle Park, c'est son époux à la ville, l'acteur Paul Newman, beau couple tout de même. Celle qui joue Mathilda, la petite apprentie physicienne, c'est leur fille, à tous les deux, Nell Potts, alias Eleanor Newman. Sa grande sœur est interprétée par Roberta Wallach, autre fille d'acteur, puisque son père n'est rien moins qu'Eli Wallach. On est donc en famille. Qui plus est, pour un film tourné à Bridgeport, Connecticut, soit 15 minutes en voiture du domicile des Newman, ce qui tombe bien pour un film dont la famille est précisément le sujet, qui aurait pu s'appeler de l'influence des rayons mamma sur le comportement des jeunes filles en fleurs, Charlotte Garçon.
Oui, Antoine, la décennie 70 du cinéma américain offre une série de portraits de femmes en crise, phagocytées par les contraintes du foyer. Alors il y a celles qui quittent tout sans explication et sans but, comme Wanda, jouée par l'actrice Barbara Loden dans son seul film comme réalisatrice. Il y a celle qui implose, comme la Mabel de Une femme sous influence, de cet inoubliable couple, effectivement, Cassavetes-Rowlands. Alors, le couple Newman-Woodward est moins connu et on ignore souvent, d'ailleurs, que le Billy the Kid du Gaucher, qui aurait eu 100 ans demain, le 26 janvier, a réalisé 5 films, tous centrés sur les relations âpres mais souvent poignantes entre parents et enfants, à une époque où le nouvel Hollywood préférait une violence plus virile et protestataire. Alors quand Joan Woodward, à la quarantaine, peine à trouver des rôles, eh bien l'acteur utilise sa célébrité pour trouver des producteurs. Il convainc donc la Warner en 1968 de le laisser tourner Rachel Rachel, bon film d'ailleurs, qui je l'espère ressortira un jour, sur une institutrice célibataire qui habite au-dessus du funérarium familial. Hein, tout un programme et qui va s'émanciper de l'emprise de sa mère. Alors qu'est-ce que ça donne un acteur qui filme, vous l'avez dit, sa femme mais aussi sa fille dans le rôle de la collégienne introvertie passionnée de science, cela donne une mise en scène qui se tient loin des effets de manche esthétiques pour rechercher, dira Newman dans un entretien, ce qui peut accrocher les spectateurs émotionnellement. D'un côté, donc, il filme sa fille de 12 ans, qui, elle, n'a aucune vocation d'actrice et qui, précise-t-il, accepte de tourner juste pour financer l'achat d'un abri pour ses pigeons. Et de l'autre, Newman sait que Joan Woodward intégrera à son jeu toute son expérience du théâtre de Tennessee Williams et aussi le passé du cinéma américain, à savoir le mélodrame des années 30, 40, 50, le Woman's Picture. Et d'ailleurs, Beatrice Hunsdorfer a un projet où ouvrir un salon de thé qui rappelle certaines intrigues des mélodrames de John Stahl ou du fameux roman de Mildred Pierce, le film de Michael Curtis avec Joan Crawford. Mais si ce film de 1972 est bien de son temps, c'est surtout parce que son actrice principale a pris le risque de se laisser perturber par ce rôle. Joan et moi, dira Newman, nous avons des monstres en nous, mais personne ne nous demande de les sortir. C'est ça, être une star dans le cinéma studio, on n'est pas assez poussé dans ses retranchements. Et il poursuit avec elle pour ce film. La mutation a été physique, même son visage a changé. Alors formé conjointement par le partisan de la méthode, Sanford Meisner, dont l'essai sur le jeu d'acteur vient de paraître d'ailleurs aux éditions Capricci, et par la chorégraphe Martha Graham, Joan Woodward combine un jeu psychologique avec un vrai travail de composition corporelle. Mais même elle, qui avait remporté l'Oscar en 57 dans le rôle d'une schizophrène, confiera de son personnage Hunsdorfer « Sa laideur m'atteignait, une telle putréfaction intérieure, je ne la comprenais que trop. » Alors de dire que Madame Hunsdorfer, veuve désargentée, élève ses deux filles adolescentes, ce serait mentir, elle les enfonce le plus souvent, avec un humour cru et décapant, un humour décorchée, elle étouffe les velléités scolaires de sa brillante cadette et elle sous-entend que son aînée lycéenne, cheerleader et amoureuse, finira comme sa mère en cloque et sans le sou. Dit comme ça, Paul Newman semble noircir le tableau et on peut craindre que le film, centré sur l'intérieur crasseux où vit le trio féminin, ne verse dans un misérabilisme complaisant. En réalité, grâce au travail photographique, notamment au magnifique usage des couleurs primaires, dont le bleu Newman des yeux translucides de Mathilda, eh bien, il y a une lumière qui passe, une lumière qui perce, comme les rayons du titre, dans une merveilleuse séquence de cours d'astrophysique, par exemple, qui passionne la jeune fille. Car ce film, au titre à rallonge de documentaire pédagogique, puise aussi sa poésie dans une bizarrerie qui est la mode du jardinage atomique. Elle a bel et bien existé dans les années 50 et 60 à travers la campagne du président Eisenhower avec des livres, des films, des visites scolaires, des expositions qui voulaient évidemment faire oublier l'usage terrible, catastrophique du nucléaire au Japon. Et quand Mathilda expose des graines au rayon, qu'est-ce qu'elle note ? Elle note que si une dose réduite de radioactivité produit des bourgeonnements exceptionnels, eh bien trop de rayons, à l'inverse, atrophient les fleurs. Les marguerites que sont Mathilda et sa sœur survivront-elles aux rayons surpuissants de leur mère ? Paul Newman a la délicatesse d'un père parce qu'il va opérer un changement de point de vue au cours de son film. C'est ça que je trouve le plus beau. C'est-à-dire que le portrait de la mère s'efface peu à peu sous celui de la plus timide de ses filles en un glissement tranquillement subversif. En accompagnant la naissance d'une vocation et l'espoir cosmique qu'elle porte, le film rapproche le mot préféré de Mathilda, atome, à son homophone, le nom du premier homme, selon la Bible, puisque dans sa prononciation américaine, atome se dit Adam.
Merci Charlotte Garçon. De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites de Paul Newman est ressorti en salle en version restaurée ce mercredi. Et pour en savoir plus sur le film, on vous recommande la lecture du passionnant dossier que vous lui avez consacré, Charlotte. C'est sur le site de Lycéens et Apprentis au cinéma. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, François Saint-Jour. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.